C'est si curieux cette coïncidence, alors que l'armée malienne et ses partenaires russes que RFI et France 24 traitent de mercenaires de Wagner ont été traînés par ces mêmes médias sur les bancs des accusés pour cause de ce que ce dernier qualifie de massacre de Mourat et que l'AFP en détaille même le déroulement dans son édition de 5 avril comme si son journaliste y assistait en personne. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'expulser la Russie pour cause de génocide à Boutcha, cette localité du nord-ouest de Kiev. Au fait, et à en croire la version médiatique occidentale, cette supposée découverte de génocide de Boutcha aurait eu lieu après le retrait des soldats russes de la banlieue de la capitale ukrainienne, ce qui fait à peu près la conclusion suivante pour n'importe qui suivrait les médias atlantistes. L'armée russe a fui les lieux de son crime en abandonnant sur place les preuves de son génocide. Or, l'évolution de la guerre en Ukraine et de la situation de l'armée russe suscite des doutes, celle-ci n'ayant pas été en débandade près de Kiev. Mais le récit de supposés massacres commis par les FAMA est encore plus étrange car, si les journalistes occidentaux ont été sur place à Boutcha, ils n'ont pas été à Moura que contre l'armée malienne depuis 10 jours. Comment arrive-t-il alors à chiffrer le nombre des habitants massacrés ou le modus operandi de l'opération? Cela fait des semaines que Barkhane et ses espions ne paradent pas dans des localités maliennes et les liens militaires Mali-France sont réduits à maximum. Qui sont ces témoins obscurs que RFI cite sans cesse et qui disent avoir vu des Blancs aider les FAMA à commettre le massacre? Le récit de RFI et des médias annexes ne tient pas la réalité étant que la nature des évolutions des liens Mali-Russie inquiète, celle-ci ayant livré récemment à l'armée malienne de quoi fonder le noyau d'une DCA et d'une armée de l'air souveraine. Dès lors, on n'écarte pas les agents français et leurs amis otaniens de contribuer ensemble à commettre un false flag à Moura pour diaboliser les FAMA, en accuser les membres de crimes de guerre et lancer des poursuites de la CPI contre une armée malienne qui a mis à la porte la force d'occupation. Face à Poutine, les Blancs occidentaux sont en train de suivre cette même procédure. Quant au Mali, ils meurent d'envie de suivre cette même procédure, car, mine de rien, le Mali, le Grand Mali, tend à changer l'histoire du colonialisme en Afrique. Il a fait l'échec à l'embargo, il a mis à la porte la force d'occupation, il a noué les liens avec la Russie et la résistance, il jette les bases d'une coalition interafricaine africaniste, et il lance un méga-pied net aux Occidentaux et se tient de leurs menaces. Occidentaux qui donnent des coups d'épée dans l'eau. Aux dernières nouvelles, la MINUSMA expulse et demande, sous ce même prétexte, à revenir à Moura. Les Occidentaux se croient-ils trop malins? Douze soldats et quatre volontaires pour la défense de la patrie ont été tués ce vendredi 8 avril à Namisigima, dans la province de Somatenga. Des dégâts matériels ont été enregistrés également. L'attaque survient au moment où les forces armées ont lancé une opération de dépollution des localités de la région. C'est au petit matin de vendredi, vers 5 heures, que des hommes armés ont lancé l'assaut contre le camp du détachement militaire. C'est une attaque complexe qui a visé le détachement, note l'état-major dans un communiqué. Mais de quoi s'agit-elle cette attaque? Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe au Burkina. Après le coup d'état qui a renversé le président Kaboré au Burkina, les Occidentaux ont tout fait afin de diriger ce putsch vers une vague pro-occidentale et empêcher ce pays d'emboîter le pas à son voisin malien. L'instance colonialiste, la CDAO, et même aller jusqu'à octroyer des concessions exceptionnelles au Burkina, tout au contraire de ce qu'elle a fait avec le Mali, à savoir ne pas sanctionner la transition et le Burkina, et a même annoncé qu'elle était disposée à accompagner la transition politique dans le pays. À ce sujet, l'autorité nous a expliqué les raisons pour lesquelles la transition devrait durer 3 ans, notamment la lutte contre le terrorisme et la résolution de la crise humanitaire, avait soutenu le président du Conseil des ministres de la CDAO, qui a annoncé avoir eu des discussions franches avec le gouvernement. Mais coup de théâtre pour la force d'occupation, le premier ministre burkinabé de la transition Albert Ouadraogo a annoncé au Parlement intérimaire le 4 avril que son pays allait diversifier les partenaires en matière de coopération militaire. Cette déclaration intervient dans un contexte anti-français et anti-européen au sein de la classe politique et de la population. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, l'option est désormais de diversifier les partenaires afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenaires seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, indiquait Albert Ouédraogo. Le chef du gouvernement de transition a présenté une feuille de route orientée prioritairement sur la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Il a assuré que le gouvernement prendrait des mesures visant à renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et à améliorer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, les soldats volontaires et la population. Quelques jours avant cette communication du chef du gouvernement, des manifestants ont scandé dans la rue de Ouédraogo face au Lagam Tabazaka. Ils appelaient le nouveau gouvernement à en venir avec les accords avec la France pour se tourner vers la Russie. Pour des Burkinabés, les Russes et Chinois seraient mieux placés pour combattre les organisations terroristes. Ils demandent également la fin des accords coloniaux passés avec la France dans le domaine de la défense. Ces futurs partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, a expliqué le Premier ministre dans une déclaration similaire à celle de Choguel Kokala Maïka, le chef du gouvernement de transition malien. D'ailleurs, le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé a organisé une conférence le 1er avril à l'université Thomas Sankara. À cette occasion, Abdul Razagou Dene, coordonnateur du club, a déclaré que nous souhaitons que l'expérience chinoise de la lutte contre le terrorisme contribue au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et que son soutien et ses apports s'inscrivent dans le sens du besoin exprimé par les Burkinabés eux-mêmes. Ainsi, la coopération gagnant-gagnant respectera ce principe de non-ingérence dans les affaires internes des nations. L'Occident semble être pris dans son propre piège. Les menaces terroristes et les attaques contre les forces armées font partie de l'intimidation si jamais les autorités burkinabées décident de se tourner vers d'autres partenaires, plutôt que Washington ou Paris. Mais le peuple burkinabé a déjà et à plusieurs reprises montré ses tendances. La voie est tracée. Suite à la signature dimanche 3 avril d'un compromis sur la formation d'un commandement unifié pour diriger la future armée du pays, les nominations seraient imminentes. C'est ce qu'ont annoncé les représentants des états-majors du gouvernement et de l'opposition lors d'une conférence de presse conjointe à Djouba, l'occasion de souligner le retour de l'opposition au sein des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix qu'elle boycottait depuis mi-mars. Que se passe-t-il au Soudan ? Plus d'explications avec Luc Michel, géopoliticien.
Écoutez, c'est la vieille malédiction du Soudan du Sud. Depuis que le pays a été déclaré indépendant et a fait sécession du Soudan, c'est depuis une guerre civile interminable qui oppose deux hommes, le président Salva Kiir et l'opposition avec Riek Machar. Le dernier plan, ce serait de les forcer à s'unir dans une armée nationale et que cette armée ne se ferait pas la guerre parce qu'elle serait composée des hommes des deux factions. C'est évidemment une utopie. Il y a derrière tout cela une tierce partie, c'est notamment les Israéliens qui inondent le pays de leurs armes. Le lobby militaire industriel israélien étant le principal fournisseur d'armes, pas seulement dans l'Euro-Sud-Soudan, mais de là, dans toute l'Afrique, puisque la plupart des armes qui inondent l'Afrique centrale viennent du lobby militaro-industriel israélien. En attendant, évidemment, les deux factions ensanglantent le pays et pénalisent lourdement les populations civiles, notamment par une politique de massacre, de viol de masse, etc. On est donc sceptique quand on voit le nouveau plan d'unification des armées autour d'une armée nationale. Il faudrait que les deux protagonistes et leurs sponsors internationaux ne disposent pas de leurs sources pour constituer des armées privées. Écoutez, ça affecte toute la région puisque c'est une source permanente d'instabilité. la guerre civile, elle a été organisée de façon quasi permanente depuis l'indépendance du pays. Et les responsables, c'est le lobby militaire industriel israélien. Il y a eu en 2017 ou 2018, je n'ai pas le souvenir exact, un grand scandale en Israël et un débat à la Knesset, le Parlement israélien, l'opposition travailliste accusant le Likoud de Netanyahou d'être directement à l'œuvre derrière les ventes d'armes du lobby militaro-industriel. Il n'y a pas de doute que ce sont eux les coupables et les responsables. Et la conséquence ne sont pas seulement pour le Sud-Soudan, elles sont pour toute la région, c'est-à-dire l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique, etc. Une zone qui va des frontières de la Libye jusqu'à la Somalie et dans laquelle on déverse des armes israéliennes. Il y a actuellement des armes à profusion. On a accusé les soi-disant arsenaux de Kadhafi, c'est évidemment une farce. Il y a actuellement, par exemple, plus de 50 000 Kalachnikovs qui sont distribués sur la région. Les arsenaux de Kadhafi, elles concernaient une petite armée nationale, puisque la Libye de Kadhafi, c'était une petite zone qui concernait moins de 4 millions d'individus. On est loin, évidemment, des 50 millions d'armes qui ont été diversées dans la région par le lobby militaro-industriel israélien.
La Chine appelle la communauté internationale à en faire plus pour la paix et la stabilité du Mali. Le représentant permanent adjoint de Chine aux Nations Unies, Dai Bing, a appelé jeudi la communauté internationale à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à ramener la paix et la stabilité au Mali. La communauté internationale devrait garder à l'esprit la situation globale en matière de maintien de la stabilité dans la région, apporter activement aide et soutien et faire davantage en faveur de la paix et la stabilité au Mali, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Le diplomate chinois a déclaré que son pays saluait les échanges permanents sur les transitions politiques entre les parties concernées et souhaitait qu'elles parviennent à un accord le plus tôt possible afin de faire avancer le processus politique dans le pays. La communauté internationale devra appuyer l'autorité de transition du Mali en conformité avec le consensus atteint lors de la conférence nationale de reconstruction pour faire avancer le processus de réforme, mettre en œuvre l'accord de paix, élaborer et mettre en application une stratégie globale pour la région centrale et aider le Mali à suivre une voie de développement conforme à ses conditions nationales, a-t-il ajouté. Le gouvernement tanzanien envisage de mettre sur pied un fonds de développement agricole. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé le lundi 4 avril dernier que les ministères de l'Agriculture et des Finances travailleront de concert pour la création d'un fonds de développement au profit de l'agriculture. Cette institution sera dédiée au subventionnement des intrants pour plusieurs filières, dont le coton, l'anacarde et le tabac. Elle sera dotée en ressources par les différentes taxes et impositions appliquées au secteur, ainsi que par un appui financier de la part du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les cours mondiaux des engrais flambent depuis près d'un an, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et plus récemment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Éthiopie et le Soudan du Sud discutent des possibilités de nouer un partenariat dans le secteur électrique. Ndwalem Sia, directeur de la planification d'entreprise de la Société publique éthiopienne de l'électricité, a rencontré en début de semaine Peter Marcello, ministre sud-soudanais de l'énergie, pour discuter d'une éventuelle coopération dans le domaine de l'énergie. Les deux parties envisagent la possibilité de mettre en place une interconnexion électrique destinée à alimenter le Soudan du Sud en électricité. Rappelons qu'en août dernier, l'Éthiopie avait déjà sollicité le Soudan pour lui fournir 1000 mégawatts d'électricité. L'Éthiopie veut devenir un exportateur net d'énergie et cherche aussi à augmenter sa capacité de production d'énergie propre, ainsi que celle de transport et de distribution d'électricité à l'échelle régionale. Selon les données fournies par la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique de l'Est est de 52% en moyenne. À Douekwe, Gbagbo rend hommage aux victimes de la crise post-électorale. Paix et réconciliation, c'est le message de Laurent Gbagbo qui termine une visite à Douekwe. La ville de Côte d'Ivoire a accueilli vendredi dans une liesse populaire l'ancien chef de l'État ivoirien, 11 ans après les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. À l'époque, les régions de l'Ouest ivoirien en particulier étaient marquées par des tueries avec au moins 1000 morts selon les Nations Unies, dont plus de 800 pour la seule ville de Douekwe. Je lance un message de paix et de réconciliation, a conclu Laurent Gbagbo. Une ambiance de fête, mais aussi beaucoup d'émotions, car étaient également présentes de nombreuses personnes ayant perdu des proches durant la crise post-électorale.